Chers amis, bienvenue à l'écoute de votre radio pour y passer quelques instants en compagnie de Saint François. Après la grand-messe, François s'attarda à prier. La famille était déjà partie. Lui, il écoutait Dieu. Il n'y avait plus personne, à part un aveugle à genoux qui souriait au tabernacle. « Laissez-moi être pauvre, » priait François, « absolument pauvre, pauvre comme le fut notre Seigneur, pauvre afin de pouvoir me donner à lui tout entier, pauvre comme dans l'Évangile. » « Mon Seigneur, donnez-moi d'âme pauvreté, » dit-il avec aux lèvres un sourire timide, comme s'il croyait demander trop. Pâle et anxieuse, la mère entra en hâte à l'église, lui toucha doucement l'épaule. « Fils, reviens vite. Est-il vrai que tu visites les lépreux? Que tu y es allé hier encore? Ah, ton père est dans une colère mortelle, viens vite. » Sinon, il est capable de venir t'arracher ici. « Je t'accompagnerai, maman, » dit-il en serrant les dents. Il irait se défendre. Le père l'attendait, les jambes écartées, les mains prêtes à fracasser des colonnes. « C'est vrai, ça ?»« Oui, » dit François très calme. Et au lieu de saisir son fils, le père se contenta de vociférer. « Ignoble hypocrite, je n'ose pas te frapper, de peur que mes mains ne prennent cette saleté. » « Au bain d'abord, avant que je te frappe !» Il jurait, tempêtait. Soudain, il saisit François tout de même et le secoua brutalement. « Oseras-tu recommencer ?»« J'ai simplement apporté un peu de bonheur à ces hommes. »« Pour porter sur nous le malheur !»« Père, si vous étiez un de ces malheureux, n'aimeriez-vous pas qu'on vienne vous voir ?» L'autre haletait. « Tais-toi ! Moi, je ne veux pas que tu y ailles !»« Et si Dieu le veut ? Qu'oses-tu parler de Dieu ?» Comédien, tu parles comme si tu avais été son compagnon de classe. As-tu déjà oublié tes débauches de l'an passé, quand on t'a ramené ivre-mort à la maison ? François demeura foudroyé. C'était vrai pourtant. De quel droit parlait-il de Dieu, lui ? Il n'était même digne de prononcer son saint nom. Et il subit en silence la suite de l'algarade. Il regardait sa maman, que la peur empêchait d'achever un pater. Hélas, oui. Il fallait que cela changeât. Pour ses parents, ce n'était vraiment pas tenable. Il fallait à tout prix une solution. « Si je savais ce que Dieu veut de moi, » pensa-t-il. « Vas-tu recommencer ?» hurla le père en se dressant de nouveau devant lui. « Je ne sais pas encore répondre. » « Vlan, vlan, les coups se suivirent, Dru. » La mère pleurait. Angelo, de peur, avait sauté sur une chaise et le père, jetant François à la porte, hurla. « Reviens lorsque tu te seras lavé et que tu sauras la réponse. Demain, tu m'accompagneras en voyage. » La foule riait. Les amis anciens riaient. François s'enfuit, honteux, par une petite ruelle vers la montagne. Il retourna pour la première fois à sa grotte. Il n'en sortit que le lendemain au lever du jour. Il avait l'air de relever d'une longue maladie. Il continua d'errer dans la montagne. « Dieu, Dieu » cria-t-il. Et les monts répétèrent par trois fois en écho « Dieu, Dieu !» Il arriva devant l'églisette lézardée de Saint-Damien et s'y précipita pour, encore une fois, après tant d'autres fois, lamenter devant le crucifix sa misère. Le curé, un petit vieux, était assis, capuchon relevé, au faible soleil de février. Il lisait un petit livre tout en déjeunant de rillettes. À le voir, on l'eût pris pour un saint Antoine ermite. Seulement, il n'y avait pas de cochon, mais des abeilles. En face de lui bombaient deux ruches. Les abeilles se posaient sur ses mains, dans sa barbe, volaient autour de sa tête. Il habitait une petite grange, mais il y vivait heureux avec ses avettes près de son églisette. Que faut-il de plus à un vieillard, surtout à un curé, que du miel pour sa nourriture et de la cire pour ses cierges? Mais il était un peu sourd. Il vit venir François qui lui cria « Il fait beau temps !»« Eh, dit le petit curé, quand le vent souffle de l'ouest, j'ai l'oreille dure. » « Le vent est à l'est, il souffle du côté de la montagne. »« Eh, dit le vieux en riant, alors je l'ai plus dur encore. » Que lui importait à ce bon vieux sa surdité? Il avait ses mouches à miel et sa petite église, et il écoutait Dieu avec son cœur. François fit signe qu'il allait prier un peu. Dans l'église, il se laissa choir à genoux et leva les bras vers la croix comme quelqu'un qui se noie. Des paroles, il n'en sut dire. Il contempla la croix où était peint un Jésus au doux regard qui vous suit et de chaque côté, dans les coins, des saints et des anges. Il s'abandonna de toute son âme. Les yeux dans les yeux de ce Christ. Les mains et le cœur ouverts pour recevoir cette lumière dont son âme avait faim. Jésus, lui aussi, tenait ouvert ses bras, embrassant le monde entier. La croix était de bois et peinte, François de chair vivante et de sang. Entre la croix et lui étaient l'air et la pénombre. Mais il y avait aussi entre eux l'amour, qu'on ne voit pas, et toutes les prières du vieux curé et des paysans, les prières et les larmes de tous les hommes et de tout l'univers. Silence. François pleurait, et dans ce silence, la croix parla. Elle parla. Sur la croix, Jésus bougea. Le corps frissonna, la tête se releva, et les yeux se prirent à vivre comme ceux d'un homme vivant. La bouche frémit, et les lèvres s'ouvrirent et se fermèrent tour à tour. Et d'une voix plus belle qu'un chant, le Christ dit « Rebâtis mon église qui tombe en ruine. » Trois fois de suite. Et puis la tête se pencha de nouveau sur l'épaule, les yeux s'éteignirent. Et il n'y avait plus qu'une simple croix de bois. Mais Jésus avait parlé. Par cette voix, Jésus était descendu de sa croix. Deux amours, le divin et l'humain, s'étaient rencontrés. Et dans l'âme de François s'épanouit une rose de lumière sanglante. « Jésus, Jésus » cria-t-il, « je ne suis plus moi, je suis vous-même. » Il tomba tout de son long en sanglotant de bonheur. Un long temps après, le curé lui toucha l'épaule. François se dressa d'un bond et lui baisant les mains, il y mit sa bourse. « Voilà déjà pour l'huile de la lampe Dieu, » lui cria-t-il à l'oreille. « Je veux être le maçon de votre église. » « Plaît-il ? Le maçon de votre église. » « Ah, ah !» plaisanta le vieux. « Maçon, vous, serez un joli maçon. De votre église en ruine, je ferai une jolie petite église. » Il fallait lui crier tout cela dans le tympan. « Ah, ah, habillé comme vous l'êtes, vous, fils d'une famille aussi fière, vous avez l'art de plaisanter. Je m'en vais chercher de l'argent pour l'achat d'outils de bois et de pierre. » Et François s'enfuit. « Jésus, Jésus, je sais maintenant. » Et il dansa en répétant ces paroles. « Maman ?» demanda François à son frère. « Au lit, malade à cause de toi et... » Mais déjà François était monté. La mère était alitée, un bandeau mouillé sur le front. Elle sursauta quand elle le vit entrer brusquement et si gaiement. « Maman, maman, je vais rebâtir l'église de Saint-Damien. » Du doigt, elle le désapprouvait. « Pourquoi n'es-tu pas rentré cette nuit? Pourquoi fais-tu tant de peine à ton père ? et tu sais que tout retombe sur moi. Il m'a menacé de coups si je te laisse encore sortir. Décide-toi, mon fils. Si tu as envie de te faire religieux, fais-le. Mais qu'est-ce que tu me racontes de l'église de Saint-Damien ? » Angelo était entré en courant. « Bon, tu vas rendre maman plus malade encore. Attends que ton père soit rentré, tu n'emmèneras pas large, car il a pris l'univers à témoin qu'il te changerait. » François regarda son frère, sa mère, mais il entendait en son cœur la voix du crucifix. « Dis-lui que cela lui coûtera peu. Je pars d'ici. » « mon fils, gémit la mère en étendant les bras. « Ne pleure pas, maman. » Il tomba dans ses bras et la baisa. « Sois tranquille, maman. Je ne puis agir autrement, ni pour toi, ni pour moi, maman. Où vas-tu, mon fils? Où vas-tu? Rebâtir l'église de Saint-Damien. Dieu me l'a inspiré. » Elle le regarda, l'œil soucieux. Il s'était passé déjà tant de choses merveilleuses à son sujet. « Et ta nourriture? Ton logement ? » interrogea-t-elle inquiète. « Dieu y pourvoira, maman. Il prend soin des moineaux et des lapins. Adieu, maman. » Elle sanglotait sur sa poitrine. Il s'en alla. Il fit sortir son cheval de l'écurie, le chargea de quelques pièces de velours et de soie et dit à Angelo, « Dis à papa qu'il défalque cela de mon héritage. Bonsoir. Voleur, je le dirai à papa, voleur !» Les voisins sortaient sur le pas des portes. François poursuivit sa route sans même tourner la tête. À la fenêtre, sa mère le regardait partir. Elle s'était couvert la tête d'un manteau noir. François ôta sa coiffure pour elle avec respect, comme devant une vierge des sept douleurs. Il chevaucha droit vers Foligno, où se tenait le marché. La pluie se mit à tomber. Vers le soir, mouillé comme un poisson, François se retrouva devant Saint-Damien. Il avait vendu le cheval et les étoffes. Le petit curé était en train de traire sa chèvre, car il avait aussi une chèvre et il avait en outre deux lapins, des lapins blancs aux yeux rouges. Et qu'avait-il encore? Voyons un peu. De la semence, de fleurs et de radis pour son jardinier, grand comme un tablier. Un de ces jours, il allait l'ensemencer. Et des pots d'onguents, de belles et bons onguents, pour guérir les furoncles. Ah, les paysans pouvaient en parler de ce onguent merveilleux. Et puis, il avait encore des livres, 4 ou 5 livres écrits à la main et qui renfermaient des choses savantes et de belles histoires. Et puis, il avait encore cette vue large sur les lointains et sur le ciel. Dans toute sa pauvreté, c'était un petit curé bien riche. Quand on lui disait « C'est dommage que vous ayez l'ouïe dure », il répondait souvent « Et qui entend mal, n'entend point mes dires. » François le vit assis là, dans sa bure grise rapiécée, le capuchon relevé, occupé à traire et riant au filet qui jaillissait du pis dans le petit seau. Tsu, tsu. La chèvre en profitait pour manger une poignée de verdure. On eût dit que ce n'était pas chez elle qu'on traillait. Ces chèvres à lait sont de bonnes bêtes. François pensa. Il sourit au lait. « Je vais le faire sourire à tout cet argent. » Il le tira par sa robe et quand ils se furent souris, il lui cria à l'oreille. « Voici de l'argent pour votre église !» Il vida la bourse sur les genoux du curé. « Ah, ah, très bien. Où as-tu cherché ça ?» François expliqua. « Mais tu as volé cela chez vous ?» cria le vieux effrayé. « Un de ces jours, j'aurai la visite de ton papa. Nenni, mon garçon, reprends ton argent et rapporte-le bien vite. » « Je ne rentre plus à la maison. » « Plaît-il ? » ?»« Je ne rentre plus chez nous. » »« Tu ne rentres plus ?» François fit signe que non. « Et pourquoi pas ?» François mit ses mains encornées à l'oreille du vieux prêtre et expliqua qu'il ne rentrait plus parce que et parce que... Il lui dit tout. Pour la première fois depuis le début de son combat intime, il raconta tout en peu de mots, mais bien, de sorte que cet ermite vit aussi clair en lui que lui-même. Cela prit du temps. Il fallait d'abord que la chèvre fût ramenée à l'étable et la petite lampe d'argile allumée. Puis François poursuivit son récit, son désir de Dieu, la rencontre de l'ami, Rome, ce lépreux, son père, sa mère et cette croix qui lui avait parlé. Tout cela avec des larmes et des silences pendant lesquels on pouvait entendre la pluie sur les montagnes. Ce petit curé, que vous eussiez à le voir assis là, pris pour un simplet, tout vieux et trop sourd pour un canon, ce petit curé avait l'esprit très sagace. C'était au fond un homme savant. Il voyait clair en bien des choses auxquelles d'autres n'eussent trouvé ni queue ni tête. Il lisait dans le cœur des hommes comme dans un livre. Un don. S'il avait eu Louis Bonne, celui-là, il y a longtemps qu'il eût été évêque. Quand François eut tout dit, et comme il pleurait aux genoux du petit vieux, celui-ci lui dit « Tu as raison, mon enfant, tu ne peux servir de maître. » Comme François était heureux d'entendre cela, surtout de la bouche d'un prêtre. Et alors ce saint homme, car c'était un saint, dit encore « Tu peux rester chez moi, il y a de la place dans ma petite grange. » Des vivres, je n'en ai pas trop, mais tu vas aborder une belle vie spirituelle, tu vas voir. De faire le maçon ne rapportera guère, nous n'avons pas d'argent, et cette bourse ne nous appartient pas. Tu pourras toujours bâtir plus tard. En attendant, je t'occuperai. J'irai trouver l'évêque pour qu'il t'ordonne diacre. Maintenant, disons encore un bout de prière et allons nous coucher. » Ils prièrent et s'en furent dormir. Mais d'abord, François voulut éloigner l'argent. Qu'en ferait-il? Le jeter dans l'herbe? Non, il le déposa sur le rebord d'une fenêtre de l'église et rentra. Le curé le signa du pouce sur le front comme un père son enfant. Puis il souffla la lampe et demeura encore un long temps agenouillé devant son lit, un sac de feuilles mortes. Il remercia le ciel pour les mouches à miel, le lait de chèvre, la pluie et pour ce jeune homme en qui il devinait un saint. Et François, lui aussi, s'attarda longtemps à genoux devant sa botte de paille et il remercia Dieu pour la voix du crucifix, pour le curé, pour sa mère. Il pria pour son père et son frère. La nuit était noyée dans la pluie qui trouvait les fentes dans le toit de chaume, mais sous ce chaume dormaient deux hommes heureux. Ce furent de belles heures à Saint-Damien. François faisait office de sacristain, servait la messe, aidait à l'entretien du courtil grand comme ma main. Il trayait la chèvre, rassemblait en petits tas les pierres qu'il pouvait trouver, arrachait l'herbe du toit. Il balayait l'église au moyen d'un balai de sa façon et fourbissait les deux chandeliers avec du sable et une gaulée de vinaigre. Et il semait les radis. Tout le monde ne sait pas semer les radis. Le curé le lui apprit. Voilà comment il faut faire. Tenir la semence légèrement dans le poing, tourner alors ton poing et laisser les graines couler en terre. Et de ces graines menues comme têtes d'épingle sortiront des radis. Il y a des graines, les faines par exemple, d'où naissent des arbres grands comme une église. Ô semence que tu es belle, dit François. Dieu, que vous avez bien fait toutes choses. Il avait de nouveau découvert une grotte. Une grotte. Derrière des épines et des buissons, et où il devait se glisser aplati et où n'entrait pas un brin de lumière. Dans cette grotte, que le diable n'eût pu trouver, dans cette nuit creuse, son âme de jour en jour recevait plus d'amour et de lumière, et il ne put s'empêcher de chanter son bonheur. À son retour de voyage, le père, apprenant la fugue, ne se possédait plus. Il nouait sanglots et jurons, tantôt debout, les bras au ciel à blasphémer, tantôt affalé sur une chaise, le front sur la table, tout sanglot. La mère se tint tranquille, pleurant dans son mouchoir. Quand elle s'aventurait à dire un mot, il se dressait furieux. « Tais-toi, sinon je fais des malheurs !» Il avait besoin de crier. Il ne cessa ses clameurs, ni en montant, ni en se déshabillant, et au lit, il rageait encore. Mais alors, il commença à proférer des menaces qui étreignirent de peur le cœur de la mère. « Demain, j'irai l'arracher à ce nid infect. J'amènerai toute la ville. Nous irons le prendre, nous le traînerons, et en pleine grande place, je le battrai comme plâtre. Ah, nous vivrons un jour dont on parlera longtemps. Mon honneur doit être vengé. Tu trembles ? Tremble, va. C'est aussi ta faute à toi. Demain, demain sera pour moi un grand jour. » Le lendemain, elle se leva la première. Elle alla à la messe dans l'église de Saint-Nicolas, place du marché. Elle causa avec un mendiant, lui remit quelque chose et un peu plus tard, ce mendiant se balança sur ses béquilles du côté de Saint-Damien. Quand le père eut mangé une bouchée de pain, déjeuner ne le pouvait, il envoya Angelo et la servante appeler ses amis et ceux de François. Il leur exposa son plan d'attaque et ils l'approuvèrent. En digne bourgeois, ils le trouvèrent fort bon. Un fils qui se révolte contre son père mérite châtiment. Mais Philippe, un des amis de François, toujours heureux d'humilier quelqu'un, proposa de ne point faire de mal au transfuge. « Il nous faut l'emmener, l'enivrer et comme naguère le porter sur nos épaules, comme le roi des fêtes par toute la ville. Le vin le rendra gai comme devant, le fera chanter et danser, et ensuite, dégrisé, il aura trop de honte pour recommencer à faire le pénitent. Pour le rendre à la maison, il n'y a que ce moyen, l'humilier à fond, l'exposer à la risée. Je le connais. » « Bien !» cria le père. Les autres étaient du même avis. Et donc, une bannière et des mandolines. Et la mère qui entendait cela, elle sortit par la petite porte de la cour. Sur le seuil d'un obscur taudis, une petite vieille était accroupie. La mère lui chuchota quelques mots, lui donna de l'argent, et la vieille, ayant mis sa cape, disparut dans la direction de Saint-Damien. Quand le petit cortège y arriva, le curé se promenait le long du ruisseau, laissant sa chèvre brouter l'herbe nouvelle. Le père sortit de la foule, tenant d'une main un bâton, de l'autre une corde. « Où est mon fils ? » grommela-t-il en défiant le curé. « Plaît-il ? » fit le prêtre en avançant la tête. « Où est mon fils ? » « Je n'entends pas bien. Mon fils ? Ah, votre fils ? Oui, vous cherchez votre fils ? Qui chercherais-je sinon lui ? Naturellement. Où est-il ? Plaît-il ? Dites-moi où il est. Si, si, mais il ne faut pas vous fâcher. Avec un peu moins de bruit, je comprendrai autant. Mais ce vent d'est ? » Le père écumait de fureur. Sa grande main s'abattit sur l'épaule du vieillard. « Vous allez me montrer où est mon fils ?» « J'ai cru d'abord que vous veniez reprendre un bœuf échappé, » dit le vieux. « Un seul coup de ce gourdin tuerait votre fils. A-t-il fait du mal ?»« Il a volé. C'est un voleur, » dit Angelo. « Venez-vous pour le prix de ce cheval ?»« Pour cet argent et pour mon fils. L'argent est là, sur le rebord de la fenêtre. » Angelo l'y alla prendre. « Je n'ai que faire de cet argent, » cria le père. « C'est mon fils qu'il me faut. » Mais il empocha quand même la somme. « Qu'avez-vous fait de mon fils ?» Nous avons mangé du miel. » Le père blasphémait, secouait en tous sens le vieillard. « Mon fils, mon fils !» Un bourgeois retint le père et le tira en arrière. « Calmez-vous, Pierre, mon ami. Songez que c'est un prêtre. D'ailleurs, c'est inutile, il ne dira rien. Cherchons nous-mêmes. » Ils se mirent à battre les environs. « Il est ici !» cria le père. « Son chapeau est pendu là. » Il jeta ce chapeau avec mépris. « Il est ici, nous devons le trouver !» Ils cherchèrent, dans l'église, dans la grange, dans les buissons, derrière les rochers. Ils escaladèrent la montagne jusque dans le bois. Angelo cria, « François, c'est moi ton frère, nous ne te ferons pas de mal, mais ta mère est malade et elle désire te voir avant de mourir. » Et les autres ensuite crièrent la même chose, et le père de sa voix de trompette. « Si tu ne te montres pas, je te tue !» Pendant tout ce beau tapage, le curé qui s'était assis lisait tranquillement dans son petit livre. Point de François ? Nulle part. Les gens déploraient leur temps perdu, s'en retournaient l'un après l'autre sans bruit. Tout à coup, le père revint sur le curé. « Allez-vous me le montrer, oui ou non ?»« Je vais vous raconter une histoire du temps où j'étais jeune. » « Je n'ai que faire de vos comptes, mais tout cela, je le dirai à Monseigneur. Moi aussi. Quoi, vous aussi ? Que Monseigneur est un saint homme. » Le père trépignait de rage. « Nous reviendrons, menaça-t-il. Les bannières sont prêtes, vous pourrez l'en avertir. Je le lui dirai. » Les gens faisaient semblant de n'appartenir point à ce cortège raté. Les amis se faufilèrent par des sentiers de traverse, abandonnant le père avec quelques messieurs comme il faut. Et quand celui-ci rentra dans Assise, avec cette corde et ce bâton, on rit beaucoup. D'aucuns demandaient s'il avait mis François en poche. Qu'était devenu ce François si terrible ? Jésus, son Seigneur et son Dieu, lui avait parlé en personne à travers une croix de bois. Le bois mort était devenu vivant pour laisser passer le ciel. Quelle grâce ! De quoi monter à toutes les cimes ! Et cependant, il était là, grelottant de peur, réfugié pendant des jours dans une fente de la terre. Il avait peur de son père, peur d'être moqué et hué. Quelle lâcheté ! Quelle bassesse pour quelqu'un à qui Jésus a parlé en personne. Mais il ne pouvait chasser cette peur, pas même par la prière. Un vrai cauchemar. Et en esprit, il entendait les chansons et les mandolines. Il étouffait en songeant à la comédie qu'on voulait lui faire jouer. Et cependant, malgré toute cette frayeur, sa vision des mystères de la foi s'approfondissait de plus en plus. Il sentait la beauté, la vérité, et l'ordre de toutes choses, assez pour se fondre d'extase. Mais cette peur, c'est le démon qui veut te retenir, lui dit le curé, qui, le soir, lui a porté à manger. Si tu soutiens cette épreuve, notre Seigneur vaincra quand même. Jour et nuit, François pria contre la puissance mauvaise qui voulait retenir son âme dans l'obscurité. Et une fois qu'il avait médité fortement comme on avait raillé Jésus, et comme il avait tout souffert avec une sainte patience, un rayon de clarté tomba sur lui. « Je veux imiter Jésus dans sa pauvreté et dans son abaissement. » Il fut rempli soudain de force. Debout dans la lumière, toute frayeur avait cédé. Il tomba à genoux, chanta. Puis il bondit hors de l'antre. Le soleil emplissait l'air, les oiseaux chantaient. Avec toute sa lumière, il se tenait dans la lumière. La joie ruissela sur lui, il baisa le sol, il baisa les fleurs, il courut au curé et l'embrassa sur sa barbe blanche. « Délivré, je suis délivré, et j'affronterai les lions, bénissez-moi. » « Belle âme !» bégaya le curé, et se détourna pour cacher ses larmes. À grands pas, François partit vers la ville. Les habits déchirés et salis, la barbe en étele, les cheveux longs, la face maigre et terreuse, mais les yeux brûlés de joie et d'enthousiasme, et il chantait. Thank you. assise après-midi se taisait. Seul, dans la rue, un peu de soleil et quelques poules. On entendait sur le silence les fontaines couler. Pierre Bernardone, dans sa boutique, classait et rangeait des étoffes. Lui, si bavard d'habitude, travaillait sans mot dire, muet comme un mur, et s'il lui arrivait de dire un mot, c'était comme un tambour, ram, ram, bref, comme un coup de dent. Dans son front s'étaient gravées des rides profondes et autour de sa bouche un pli amer. Angelo avait vraiment pitié de son père. Un si brave homme, jovial et rond, que déchirait le chagrin à cause de son fils. Et à cette compassion se mêlait dans le cœur d'Angelo un secret désir que François persévéra dans sa folie. Ainsi, pensait-il, le commerce de draps sera à moi seul. Madame était allée rendre visite à une amie malade. La tristesse était palpable dans cette maison. Tout à coup, dans la rue, une agitation et au loin des cris. « Il se passe quelque chose, » dit Angelo. Les ciseaux à la main, il alla voir à la porte. « Je crois bien que c'est un fou qu'on taquine, » dit-il, en se tournant vers l'intérieur. « Regardez, il lui jette de la boue et lui donne des coups, le pauvre diable. » Le père, renfrogné, continuait ses calculs. Un homme passa qui dit quelques mots à Angelo. Le père entendit le nom de François. Le sang lui monta à la tête et il écouta, les yeux terribles. Angelo rentra, pâlissant, ferma brusquement la porte et haleta. « Papa, papa, c'est notre François, c'est François qui arrive. Oh, que j'ai honte, cachez-vous. »« Quoi, lui ?» vociféra Pierre. Il bondit de derrière son pupitre. « Arrière » jura-t-il en écartant Angelo. Il chercha la poignée, mais la hâte et la colère l'empêchèrent de la trouver. « Damnation, la poignée de sa propre porte !» il cogna avec rage. François marchait dans un flot de voyous, petits et grands, qui le huaient, le conspuaient, le tiraient par les cheveux et par ses habits en loques. François avançait, calme, presque majestueux, avec dans ses yeux une belle lumière. Un boucher qui n'avait pas la clientèle des Bernardone levait le bras pour lui lancer dans la figure les tripes d'une chevrette fraîchement abattue lorsque la porte s'ouvrit avec fracas et le père parut, grand et farouche. Interdit, le boucher laissa glisser la tripaille et la populace s'arrêta, soudain muette. Mais François marcha droit sur son père. Et le père vint sur lui. Lentement, mais les poings crispés, les épaules levées, frémissants et blêmes de haine, ils étaient debout face à face, le père et le fils. Le père regardait son fils. Le fils levait les yeux vers son père. François allait dire « Je suis lavé dans la lumière de Dieu. » Mais avant qu'il eût prononcé un mot, deux poings énormes comme des marteaux l'abattirent sur le sol. Alors le père le saisit par les cheveux et d'un élan le traîna dans la maison. La porte claqua. Comme une vague, la foule déferla, monta sur les appuis de fenêtre, les derniers sur les épaules des premiers, et on se battait pour regarder par le trou de la serrure. Tout à coup, tout le monde s'écarta. C'était la mère. La servante la soutenait. Personne dans la boutique. Dans la chambre, le père s'appuyait à la table, les mains derrière le dos, haletant, le front en sueur. Il n'eut pour sa femme qu'un regard chargé de mépris. Elle s'avança, implorante. « Notre fils, notre fils !» Sans modifier son attitude, il grommela. « Dans la cave au vin !» Elle jeta un cri et voulut s'élancer. Il l'arrêta. « Ne passe pas. D'ailleurs, j'ai les clés. L'affaire se réglera entre lui et moi. » Ces paroles étaient comme les murs d'une prison. La mère s'affaissa sur un siège, la face dans les plis de son manteau. Chers amis, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, mais à très bientôt.